Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine pour parler lutte syndicale, esprit de groupe et révolution d'octobre avec votre notaire préféré, surnommé la terreur du tsar, le bolchevique du barreau, le Lénine de la procédure, Cyril. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Gaspard.
Et cette semaine, je suis ravi de te recevoir pour enfin parler cinéma correctement dans cette émission. Fini les Gilles Lelouch et les Nicole Kidman, fini les Gilles Lelouch et les Jean Renoir, fini les Gilles Lelouch et les monstres aquatiques coréens. Enfin, on va se consacrer au 7ème art, le plus pur, le plus dur. Ce soir, on parle cinéma muet, on parle cinéma soviétique, on parle de celui qui a longtemps été considéré comme le meilleur film de tous les temps, en tout cas jusqu'en 1958, Le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein.
Magnifique film.
Putain, j'en ai des frissons à rien que d'en reparler. Sergei Mikhailovich Eisenstein est né le 10 janvier 1898 à Riga, en Lettonie. C'est un réalisateur, professeur, essayiste, homme de théâtre russe de la période soviétique, période bénie. Sergei ne s'engage pourtant pas politiquement en octobre 17, lors de la révolution d'octobre. Il s'engage lorsque débute en revanche la guerre civile, le mec il pose ses coucougnettes, en suivant le mouvement de ses condisciples de l'école des Beaux-Arts. Alors Eisenstein peint des bannières, des affiches sardoniques, sarcastiques, bien dans son humeur. Et puis Eisenstein, en revanche, est loyal envers les idéaux du communisme prônés par Staline, comme nous. Ce dernier comprend très bien le pouvoir d'ailleurs des films en tant qu'outil de propagande. Et bon, même s'il aime pas trop Eisenstein, il commence à lui commander pas mal de films. Et en 1925, la commission chargée par le comité central du parti communiste, en charge d'organiser le jubilé de la révolution manquée de 1905, désigne Eisenstein pour réaliser un film commémoratif. Et faute de temps, le réalisateur ne pourra pas traiter la totalité des événements, mais seulement l'un d'entre eux, la mutinerie intervenue venu sur le cuirassé, ça sera le cuirassé Potemkin.
Exactement, celui avec le plus de panache au final. Il a choisi le meilleur de cette révolution.
Le courage des révolutionnaires. Un juriste comme toi qui aime prendre des risques, ça doit te donner des frissons, non, de reparler de ça.
C'est beau, il faut savoir faire preuve de courage. Nous, on fait preuve de courage en tant que professionnels du droit, tous les jours, derrière nos bureaux, à taper sur nos ordinateurs, sur les claviers. Et j'incite les gens à faire de même et à prendre leur courage à deux mains.
Parti pour apprendre les techniques du cinéma sonore, Eisenstein parcourt l'Europe avant de partir même aux États-Unis vers l'ennemi. Il est même à deux doigts de signer un juteux contrat avec Paramount, l'ennemi. Et rapide passage au Mexique pour tourner rapidement le rapide documentaire Que Viva Mexico. Mais en revanche, cette incursion en Occident ne plaît pas à Joseph, plus suspicieux à l'égard d'Eisenstein à la suite.
Et d'ailleurs, très drôle, il va au Mexique en même temps que Léon Trotsky se fait assassiner en 1930.
Est-ce que tu es en train de balancer
Moi, je pose les questions, je ne suis pas là pour donner les réponses.
Non, il n'a pas été tué au pic à glace, Trotsky.
Alors, je crois qu'on confond avec un autre film.
Ah bon,
c'est ce qu'on me souffle. Moi, c'est mon instinct.
Ça doit être des fétiches à moi alors qu'ils reviennent, je pensais. Je pensais à une très bonne blague de Kev Adams qui disait Trotsky Tulski. L'incursion en Occident donc rend Staline plus suspicieux à l'égard d'Eisenstein. Et du coup, la bureaucratie impose l'annulation des deux projets suivants. Et un superviseur officiel est collé au basque d'Eisenstein. Donc son film suivant, tourné entre 42 et 44, ça sera Ivan le Terrible, à l'approbation de Staline pour une fois. À tel point qu'il a l'approbation de Staline que Eisenstein reçoit le prix Staline en 1945. La seconde partie du film dépeignant Ivan comme un monstre, en revanche, elle est interdite par Staline, donc il n'a pas le prix Staline en 46.
Parce que dans la première partie, il fait une comparaison où il faut voir Ivan le Terrible comme une représentation de Staline.
Ah bah oui, évidemment.
Voilà, d'où le fait qu'il ait le prix
c'est
Staline.
C'est ça. En revanche, en 46, c'est le film Staline de Reign qui avait eu le prix Staline. C'était La La Land dans les goulags, c'était moins drôle. Perçu comme une critique de Staline et du culte de la personnalité, donc le film est interdit et met fin à la carrière d'Eisenstein, un film qui n'est autorisé finalement qu'à partir de 58 en Union soviétique. Et Eisenstein meurt dans l'indifférence générale quelques années plus tard. Et on est là ce soir pour rendre hommage, si c'est pas un seul homme, c'est un mouvement. Un mouvement qui a longtemps été persécuté, qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir. Celui de l'esprit de groupe, celui de la collectivité, parce que voilà, moi j'en ai marre quand je vois un certain président me parler d'entreprendre. Moi je vais te parler de vrais mecs qui ont vraiment entrepris un truc, tu vois. Des mecs qui ont dit fuck le tsar.
Et puis dans entreprendre, il y a entre. Donc c'est,
oui, c'est
entre
vrai.
Des personnes.
C'est
à plusieurs, c'est un groupe.
Et le cuirassé Potemkin, sorti en 1925, donc le deuxième film d'Eisenstein, son premier d'ailleurs, La Grève est sorti la même année, parle de la mutinerie que tout le monde connaît évidemment, hein, du cuirassé Potemkin dans le port d'Odessa en 1905, les meilleurs s'en souviennent, et de l'insurrection et répression qui s'en suivirent dans la ville. C'est un film qu'on peut dire quand même anti-tsariste à max. Et donc le film fut très longtemps interdit dans de nombreux pays occidentaux pour cause, alors ça c'est vraiment des bullshit, de propagande bolchevique, hein. Mettez propagande entre guillemets, bolchevique en gras, surligné en rouge.
Moi je préfère un bol de ceviche au bolchevique.
Mais dis donc, elle est de Kev Adams ou pas celle-là aussi? Non. Et on va peut-être commencer pour parler du film, un film qui est coupé en 5 actes. Ça va aller assez vite parce que bon, c'est un film muet.
Moi je voulais préciser quelque chose avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ce film représente à la fois toute la violence de la société mais également tout le potentiel économique du travail du notaire.
Et on en revient toujours là.
Je ne peux pas en tant revient, que professionnel et juriste.
Je t'avoue, je t'ai pas invité par hasard.
Je peux pas le mentionner parce qu'effectivement, en termes de mort, ça dézingue. Et personnellement, alors j'étais pas né à l'époque,
non.
Mais il y en a qui ont dû se faire plaisir.
On va pouvoir attaquer le film. Donc on va d'abord attaquer avec le premier acte qui s'appelle très simplement « Des hommes et des vers ». Nous sommes en juin 1905, la mer est démontée, le Potemkin, ce magnifique bateau, avance sur l'eau, j'ai pas d'autres mots. En revanche, un carton tout de suite s'affiche à l'écran et nous explique un peu le contexte politique. On est à l'aube d'une possible révolution en Russie, on sent que le peuple est en train de se soulever. Sur le bateau, on voit que quelques marins commencent à être enthousiasmés à l'idée de cette révolution populaire et on voit le matelot, alors excusez-moi pour les noms, Matyushenko, qui s'adresse à son camarade Vakulinchuk et qui lui dit « Écoute, champion, faut pas qu'on laisse nos frères ouvriers se faire avoir, faut qu'on se révolte. »
Totalement. Et, bah, ils se disent que c'est le moment de faire un truc. Ils se disent qu'il y a une ouverture. On a tous vu ce moment où on se dit là, il y a moyen.
Ça fait 3 ans qu'on est stagiaire sur le bateau, faut qu'on fasse quelque chose.
je veux mon stage à durée indéterminée. Donnez-le-moi.
Mon SDI. On a ensuite une petite scène rapide dans les dortoirs. Alors, ils dorment tous dans des hamacs. Alors, il y a là, tout de suite, l'idée du communisme prôné par Eisenstein, c'est qu'il n'y a pas un plan où il y a un mec tout seul. En fait, ils sont toujours plusieurs dans le cadre. L'individu est mort. C'est un pour tous, comme ils le diront plus tard dans le film. Vraiment, ce qui compte, c'est le collectif, quoi.
Mais par contre, donc, on voit à chaque fois au minimum plus de 2 personnes. Les hamacs sont toujours occupés par une seule personne.
Oui, évidemment.
Il y a pas plusieurs personnes.
C'est vrai.
Parce que c'est vrai qu'il y a une dimension.
Et on n'a pas un mec sur 2 hamacs en même temps.
Oui. Et il n'y a pas un hamac sur 2 personnes.
C'est vrai. C'est pas des personnes qui sont allongées et des hamacs qui sont posés sur
c'est
eux.
Ça.
Surtout, voilà, on a beaucoup de mecs. Et puis on a très peu de vêtements surtout.
Et c'est vrai qu'après 3 visionnages, j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'une seule personne qui n'était pas torse nu ou qui n'était pas dévêtue. Et en fait, on remarque qu'il y a une vraie dimension érotique et il se passe quelque chose pendant cette scène. Et il y a eu une lecture de. Donc Eisenstein était homosexuel.
Était gay, ouais. La dimension érotique. Et qu'on va retrouver dans tout le film avec les canons qui se lèvent, qu'on astique.
C'est ça, avec une sorte de gros mascara qu'on enfonce dans le canon, on ressort, on enfonce. Enfin voilà.
D'ailleurs, je sais pas quelle version t'as vu, moi il y avait un cum shot en fait au bout de 13 minutes, je trouvais ça assez étrange, mais bon.
Tu me diras, le verlan de Potemkin, ça fait temponique.
Une dimension érotique qui est quand même soutenue par le fait que le quartier maître rentre dans les vestiaires et fouette au hasard un type parce que bon, il est méchant et que.
Il est de dos, il se dit, il y a un dos, je vais taper.
Le matelot pleure, réconforté rapidement par ses camarades, puisque le collectif vaincra. Et Vakulinchuk s'adresse alors à ses camarades en disant, les gars, camarades, on peut pas se laisser faire, la Russie entière s'est soulevée, on peut pas être les derniers, allez-y, on va se vénère. Le lendemain matin, ils arrivent et au petit-déj, bon, d'habitude, ils ont de la viande. Sauf que là, la viande, elle est un peu chelou, non?
Bah, c'est pas que de la viande, c'est de la viande avec, with benefits. C'est-à-dire que...
C'est mille et une pattes, quoi.
Ouais, c'est un peu mille et une pattes, pour le coup. La viande bouge un peu, elle est sur vibreur.
Elle est un peu dégueu, genre, vraiment, personne n'en voudrait, c'est assez
elle
minable.
Elle est très abîmée, il y a des vers à l'intérieur, et même les chiens ne veulent pas en manger cite Vakulinchuk.
Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, heureusement que l'autre con est pas là ce soir, parce que vraiment, c'est le genre de van qu'il aurait pas supporté. Personne n'en veut, même les chiens n'en voudraient pas.
Et il rajoute par la suite que même les prisonniers russes au Japon, puisque la Russie avait perdu la guerre sino-russe quelques années avant, mangent mieux, ce qui s'explique assez logiquement parce que les vers n'aiment pas le riz.
Et donc, cette viande remplie de vers, enfin, des vers, c'est des asticots, hein, c'est pas le parti politique. Même le médecin du tsar sur place explique que oui, enfin ça va, elle est tout à fait comestible cette viande, ils peuvent la bouffer. Ils en ont un peu ras les coucougnettes, hein, les marins.
Coucougnettes.
Et bon, ils continuent de poursuivre leur tâche, mais bon, on sent quand même que ça monte, ils ont envie de se rebeller contre le système tsariste capitaliste. Et en fait, on termine cet acte sur un des marins qui fait la plonge et qui voit sur une des assiettes écrit
« Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Une célèbre phrase dans la religion catholique, le Notre Père.
Région catholique, c'est pas leur poteau communiste. Hein.
Ouais, accessoirement en plus. Et il se dit, c'est pas possible, et il éclate l'assiette par terre.
Trop, c'est c'est trop pour le commandant Golikov, le patron du Potemkin, qui fait monter tout le monde sur le pont, ras la casquette de tous ces communistes qui veulent le bon pour le peuple, l'esprit de groupe et la fin des individualités. Il décide, le commandant Golikov, de mettre tout le monde aligné et de dire, voilà,
petit sondage,
qui aime bien la viande ?
Vote action !
Ceux qui aiment bien la viande, levez-vous ! Ne s'avancent que 4 personnes, qui sont en fait les 4 sous-commandants. Ouais. Il y a un carton qui s'affiche à ce moment-là, avec marqué les commandants s'avancent pour faire plaisir au commandant Golikov.
On s'en doutait pas.
T'as quand même des cartons qui viennent t'expliquer le film à ce moment-là. Depuis le début, c'est un film muet, on n'a jamais fait de cinéma muet dans l'heure est grave. Ils parlent et tous les dialogues ne sont pas affichés, mais en partie. Et donc parfois, on les voit parler, bouger les lèvres pendant 2 heures, et s'affiche un carton très court, avec très peu de dialogue, et qui vient surexpliquer ce qu'on avait déjà compris.
Et par la suite, il leur dit, enfin, il dit aux autres, ceux qui n'aiment pas la viande, ben, je vais vous pendre. Oui, et du coup, ils sont surpris, et surtout, enfin, on peut imaginer qu'à l'époque, il y avait déjà des végétariens, parce que ce problème existe depuis très longtemps, et on peut l'imaginer dire, non, mais moi, capitaine, j'ai pas de souci avec la viande, enfin, je vous aime beaucoup, c'est pas...
Et donc, tous ces matelots qui ont osé montrer leur mécontentement s'apprêtent à être fusillés par Golikov. Il décide, en plus de les humilier, de les foutre sous un drap.
Un drap,
mais
qui les entrave.
Au moment d'être fusillés...
Et les officiers, les gardes,
oui,
qui viennent...
Sont touchés par les paroles
les mettent
de...
mettent en joue et sont touchés par la grâce.
De Vakulinchuk, qui leur dit, mes frères, sur qui allez-vous tirer ? Quelques mots qui, d'un coup, insufflent tout un vent communiste dans leurs veines. Et ils se disent, non, on peut pas faire ça.
Après,
faire ça.
C'est vrai que, vu que c'est un film muet, donc on ne sait pas ce qu'il dit, mais on voit que pendant le film, malgré les cartons, on voit qu'il parle. Alors, des fois, on se demande ce qu'ils disent.
Oui.
Hein, ça pourrait être genre, ouais, mais non
Il y en a marre de Staline,
stop.
Le communisme,
et
on fait chier, aidez-nous, aidez-nous.
Si c'était pas des otages...
Tu sais, je suis sûr qu'ils avaient déjà inventé le cinéma parlant, mais en fait, ils l'ont pas mis en place parce que tout ce que disaient les mecs, c'était juste « Venez nous aider, s'il vous plaît !»«
Please, j'ai une famille, voici son adresse !»
Le carton qui s'affiche. Staline est un homme merveilleux et je recommande à tout le monde l'URSS pour les vacances.
Et du coup, c'est pour ça que, ayant ça à l'esprit, j'ai vraiment regardé au ralenti cette scène.
Le club
Medvedev. Et on voit que... Non, et j'ai juste regardé vraiment cette scène au ralenti et on voit que Vakulinchuk, enfin l'acteur, prononce ses paroles Starfula.
Il paraît que si tu mets à l'envers, t'entends. Salut à tous, c'est David Lafarge Pokémon. Et bon, et alors ça, c'est des trucs, après les théories. Bref, Vakulinchuk a réussi à motiver tous ses camarades que le communisme c'était merveilleux et que surtout les commandants du tsar ils pouvaient aller passer le reste de leur vie avec les poissons. Il y a toute une mutinerie qui se met en place, ils courent après tous les amiraux, arrive même, alors là, un personnage clérical. Qui est ce grand barbu qui arrive soudain
cet homme, il se trouve que c'est un prêtre.
Ouais, bah disons qu'il fait peur. Hein.
C'est un prêtre, et alors petite chose surprenante, c'est un prêtre qui est habillé, donc on dirait un prêtre orthodoxe, ou du moins il ressemble
Gabbana,
à un prêtre orthodoxe, sachant que la Russie est un pays orthodoxe, mais la croix qu'il tient est une croix catholique.
Bah faut savoir que quand même le communisme, ils étaient pas très fans de l'église.
C'est ça, et ça se voit, le prêtre kiffe pas forcément les matelots, puisque une sorte de course-poursuite s'engage, le prêtre tombe dans les escaliers,
oui, il fait genre
il est mort, mais on voit son œil,
et surtout il voit que quand les amiraux du tsar ont besoin de lui, il fait genre je suis mort.
Faible.
Il balance tout le monde à l'eau, sauf que Vakulinchuk se prend une sorte de headshot, tombe par-dessus bord.
Mais 10 secondes à tomber.
Oui, c'est ça. Tout le monde se jette à l'eau pour aller le sauver. Et malheureusement, Vakulinchuk est mort. Mais
est
mort en héros. Et on dit même qu'il est mort pour un bol de soupe.
Pour une cuillère de borscht. Et c'est la fin de la partie 2, du coup.
C'est la fin de la partie 2. Donc, en fait, le corps de Vakulinchuk est ramené à Odessa. Ramené en héros. Hein, où tout le monde va glorifier ce martyr, en fait. En fait, on arrive à Odessa et on s'apprête à connaître enfin cette fameuse séquence qui a fait rentrer le film dans l'histoire. Cette fameuse séquence.
Dans l'escalier Richelieu d'Odessa.
Et on débute ce troisième acte qui s'appelle La mort demande justice. Donc le corps de Vakulinchuk est ramené à Odessa, il est présenté à la foule et en fait il va être là pour galvaniser en fait la colère du peuple, pour lancer un peu l'idéal communiste et enfin peut-être déclencher cette fameuse révolution. Le corps est présenté et il y a du monde, non ?
Ah ouais, bah on voit, alors il y a des plans. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on se rend compte au bout de 30 secondes que ce sont les mêmes plans à chaque fois qu'ils reviennent. On voit que toute la ville s'amasse et traverse par monts et par vaux la ville et la région pour pour venir se prosterner quasiment.
C'est,
hein.
C'est quand même hallucinant parce qu'on on voit un film avec là, je sais pas combien de milliers de figurants. C'est vraiment, ouais, on a l'impression de penser au.
Ah, ben ce film a dû sortir des dizaines de milliers de personnes de la misère, hein, parce qu'on voit que ce sont pas forcément des comédiens professionnels parfois et on sent que ça a dû les aider financièrement. Mais ce qui est très drôle, c'est que Vakulin Chuk devient une idole qui est justement aux antipodes de l'idéal collectif et qui justement est important dans le film.
Et donc on voit que la délégation d'Odessa est là, qui va donc se réunir autour du.
Je suis revenu du fin fond de la Russie et de Cuba pour vous rappeler le vrai sens politique de ce podcast.
Qu'est-ce que tu fous là, putain?
J'ai entendu du bruit dans la cage d'escalier, alors je suis monté.
Non, bordel, Raph, tu viens de défoncer ma porte, bordel.
Ça fait 2 mois que je suis en exil, 2 mois qu'il faut que je parle, j'ai envie.
Mais est-ce que tu fous? Mais tu peux. Va-t'en, s'il te plaît.
De quoi parlez-vous ce
Attends,
soir?
Attends, calme-toi juste.
De quoi vous parlez ce soir?
On parle du cuirassé Potemkin.
Ah, mon film préféré. Super, je viens.
Ça tombe bien,
le micro est ouvert.
Casse-toi.
Est-ce qu'il est ouvert, le micro? Bon, alors, je suis content de vous retrouver.
T'as rien à dire là, t'as rien à dire à part débarquer pour comme ça. Non, mais excuse-moi, mais tu t'es barré l'autre jour comme un gros con là. Ça fait 2 mois qu'on a pas vu ta gueule et là tu penses pouvoir te rasseoir comme ça? Non, excuse-moi, non, mais vraiment, ça me fait pas marrer en fait.
Camarade Cyril, pourquoi le camarade Gaspard est si énervé?
On va se calmer, on est quand même dans un débat où il faut rester apaisé. Juste, on n'a pas compris en fait pourquoi t'es parti et comment ça s'est passé. Mais après,
je suis parti pour mieux me retrouver dans l'idéal communiste. Camarade Cyril.
Tu vois, Gaspard, on parle de l'idéal communiste, du partage, de la solidarité, de mettre au banc l'individualisme. Je pense qu'il faut que tu arrives à mettre ta colère de côté. Tu vois, Batman a réussi à le faire.
Non, mais moi, j'ai beaucoup souffert de je comprends, tu vois, l'idéal du communisme, mais t'es parti.
Les larmes sont acceptées dans l'idéal communisme, camarade Gaspard.
Putain, tu peux pas juste dire pardon?
Il n'y a pas d'excuse lorsqu'on rejoint l'idéal du peuple.
Est-ce que tu peux juste...
Ça nous a fait mal.
Non mais tais-toi. Alors je reprends et voilà, si tu veux parler. Donc Vakulin Chuk est là et...
Glorieux Vakulin Chuk!
Et donc Vakulin Chuk est là et représente une sorte d'idéal communiste.
Mais on en a pas parlé. T'es allé en Russie du coup?
Alors j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé beaucoup, camarade Cyril. Ah. J'ai voyagé à Cuba. J'ai voyagé en Russie afin de retrouver avec moi la vraie âme de la révolution.
Vakulin Chuk, tu es polyglotte en communisme.
Restera mort.
Je suis polyglotte en communisme. Le communisme cubain, mais également le communisme russe que j'ai pu expérimenter de première main. Et je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles. Le communisme est vrai. Le communisme vit, il vit à fond là-bas.
On fait genre je pose mes notes, on arrête de parler du film, c'est ça? Voilà.
Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu peux pas dire que le communisme est quelque chose de très sérieux?
S'en foutre. En fait.
C'est quelque chose. C'est
le communisme est sérieux, mais le communisme est joie également. Le communisme est aval, il n'est en tout cas pas avare. Je suis revenu ici également puisque du fin fond du Cuba, j'étais notamment à Vignales où j'ai pu entendre sur les ondes officielles de la radio quelques bouts de notre émission, de notre émission, camarade Gaspard. Parce que ce n'est pas à toi, ce n'est pas à Cyril, ce n'est pas à JG, c'est à nous tous. La propriété privée n'a pas lieu d'être. Pour moi, la propriété privée a disparu et je me suis fondu dans la masse du communisme.
T'avais pas payé ton voyage avec les droits que vous aviez revendus, non?
Oui, mais c'était une erreur et je me rends
Attends, parce que... Quoi?
Camarade Gaspard, je t'arrête de suite. Si j'ai utilisé les fonds de notre émission impie soumise au capitalisme de l'aigle impérial et du cochon français, je les déteste tous. Tous ces animaux dans la fange qui se répandent.
Maintenant, ça y est,
alors que l'homme nouveau prôné par Staline est le seul animal qui devrait dominer.
On n'aime plus les animaux maintenant.
Les déteste, Gaspard. C'est terminé.
C'est
merveilleux.
Je reviens vers toi. Donne-moi la main, camarade Gaspard. Donne-moi la main, camarade Cyril.
C'est merveilleux.
J'en ai fini d'aimer les animaux incapables de raison, incapables de reconnaître que la seule force qui est importante, c'est la force du commun.
Mais tu rentres toujours dans les bars?
Mon cœur saigne de vous voir. Je retrouve enfin des sentiments que je n'avais pas éprouvés depuis bien longtemps, camarade.
Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué.
En tout cas, c'est vraiment super que vous parliez du cuirassé Potemkin. Moi, je l'ai vu tous les soirs pendant mon voyage. C'est un de mes films préférés maintenant. Je pense qu'on
pourra en parler. Tu l'as regardé tous les soirs?
Bah, je l'ai regardé tous les soirs. C'était une suggestion volontaire pendant la première semaine de redressement de camp, de plaisir.
T'étais dans un camp?
Bah non, j'étais pas dans un camp. J'étais plutôt dans un endroit où toutes les personnes déviantes venant de pays ennemi capitaliste était pour désapprendre la mésinformation capitaliste.
Vous avez le droit de faire des blagues sur Brejnev?
Pas sur Brejnev, qui était un homme grand et bon, mais plutôt sur...
Pourquoi il était bon? Livre...
Parce qu'il a aidé le peuple russe à...
Est-ce que ce qui était grand était bon chez lui?
Est-ce que t'aimes quand c'est grand et bon?
J'ai trop d'idées, informations en même temps.
TPD?
Non, c'est interdit par le parti encore. Ils sont pas interdits, ils sont simplement déconseillés.
C'est pas possible, on t'a lavé le cerveau là, non?
Non, on m'a pas du tout lavé le cerveau. Par contre, ce qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a déglacé le cerveau. Et alors là, c'est vachement agréable.
Avec quel vin?
Ah, pas avec du vin, avec de la vodka, camarade.
Ah bah oui. Bah,
là, je peux te dire que ton déglaçage, il est costaud. Mais du coup, moi, on m'a surtout permis de voir ce film dont vous parlez ce soir, et ça m'a beaucoup plu. Et je,
forcément.
À force, j'ai appris à l'aimer, quoi.
Si je te dis le minutage, tu peux me dire le plan ou pas?
Oui.
42 minutes 24.
42 minutes 24, c'est lorsque l'enfant meurt dans les bras de sa mère.
Putain, incroyable.
Bien.
Exactement.
Bien.
Bah, lorsque cet enfant meurt dans les bras de sa mère, ce qui est assez incroyable, c'est la dévotion de cette mère.
C'est la mort.
Alors non,
c'est merveilleux.
Ça, c'était pas incroyable.
J'en ai tellement rêvé quand j'étais en camp de vacances.
C'est l'enfant qui se prend la belle, fait fuck yeah. Enfin.
Ça, vous les regardiez ou pas en camp de vacances?
On regardait pas YouTube. Alors, on regardait le logo parce qu'il est rouge et on aime bien le rouge. Mais d'ailleurs, ça peut nous permettre de venir à un seul truc. La seule couleur de ce film, est-ce que c'est pas ce drapeau qui flotte au-dessus du Potemkin fièrement et qui a été colorié par ta nièce de 4 ans au stylo rouge, qui est assez magnifique quand même ce truc.
Moi, je crois que c'est le moment où j'ai pleuré.
Bah, c'est le moment où tu peux pleurer.
Moi, j'ai pas pleuré qu'une fois, donc moi.
Mais j'ai pleuré parce que je me suis dit merde, en fait, j'avais mal réglé mes couleurs depuis le début, le film était en couleur. Bah, en noir et blanc.
Et non, en fait, c'est juste pour souligner que c'est le
communisme.
Voilà. Alors oui, mais c'est la seule couleur qui compte. Finalement, camarade Gaspard. Mais c'est la seule couleur qui compte parce que c'est aussi la couleur du sang et bizarrement ça fait un écho, je trouve, à ce que la population va subir dans les escaliers d'Odessa parce que vous parlez de cette scène.
Tout à fait.
Elle est assez marquante cette scène avec les armées du tsar. Donc
les Cosaques.
Oui, avec l'armée du tsar qui va marcher sur le peuple qui a pris enfin sa liberté. Ça c'est une image hyper forte. Personnellement, je l'avais affichée dans ma chambre, dans mon dortoir collectif.
Nous l'avions affichée ensemble.
Nous l'avions exactement. C'était un effort de tous mes compatriotes et camarades que j'ai eu l'honneur et la chance de voir encore, qui sont parfois plus parmi tout.
Et moi, je me demandais, il y a des ZAD?
Alors, non, il n'y a pas de... Enfin,
parce que là, on voit qu'il y a une insurrection, donc en quelque sorte, ils ont créé la zone à défendre d'Odessa.
Exactement, ouais, c'est un peu...
Je trouve que ça fonctionne à l'inverse, genre, ils défendent des zones capitalistes. Genre, en fait, ils tiennent un centre commercial. Non, vous ne le retiendrez pas! Vous ne l'enlèverez pas, celui-là! Bella ciao! Bella ciao!
Au lieu de taper sur les tam-tams, ils ont des clavecins, genre... Ah! Instrument de contestation.
Vous regardiez la Casa de Papel à Cuba? Ça parle espagnol, donc...
Alors, ça parle peut-être espagnol, mais en tout cas, ça parle également argent, et ça, c'est très pas communiste. Donc non, on regardait pas.
C'est vrai, ça parle d'argent. Tout à l'heure, Raphaël, on parlait du landau avant que tu arrives dans ton entrée fracassante.
T'as toujours au sol, je tiens à dire.
Oui, c'est vrai que les voisins, du coup, entendent tout ce qu'on dit maintenant.
Entrez tous, cette habitation est désormais collective.
On va collectivement payer le loyer, alors, si ça vous va.
On ne paye plus le loyer, camarade Gaspard. À Cuba, pour le coup, ce qui est assez incroyable que j'ai vu, c'est que du coup, toutes les maisons appartiennent à l'État, mais il y a des propriétés privées, et les propriétés privées appartiennent aux combattants de la révolution de 58, à qui on a donné des habitations. Donc ça se transmet quand même de père en fils. Lorsque, par exemple, tu n'as pas de descendant, l'habitation revient à l'État. Et du coup, chose étonnante, il n'y a pas de SDF à Cuba. Et ça, c'est vraiment une avancée sociale.
Il n'y a personne dans la rue, dehors.
Il n'y a personne dans la rue. Les seules, entre guillemets, personnes un peu cheloues que tu pourrais voir dans la rue, c'est vraiment des fous. Enfin, genre des mecs qui ont décidé de s'écarter complètement du système.
Le communisme est une aberration. C'est un système économique pas viable.
Chéri, fuyons, on y a Jacques Attali. Ah mon dieu, il est capitaliste. Non, je crois qu'on a vu genre Adam Smith qui dit la main invisible du marché.
Il mettait les mains au cul.
Bah, ce genre de mec, mais j'ai dû voir une ou deux personnes comme ça, genre qui s'habillent avec des cartons. Parce que là-bas, peut-être t'as pas de problème pour manger ou pour vivre. Enfin, t'as ta maison, t'as ta bouffe qui est donnée par l'État. T'as ton propre carton pour faire tes vêtements.
C'est l'idée de la maison Potemkin.
Mi carton et sous carton.
Mi Casa de Papel et Su Casa de Papel. On en revient à la Casa de Papel, qui est une série que je n'ai pas beaucoup appréciée. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'on parlait, donc tu me parlais du Lando, excuse-moi.
C'est ça.
Mais oui, c'est une scène qui est quand même hyper, hyper poignante, ouais. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est le travelling, quoi. Parce qu'au début, je me dis, ah, c'est rigolo. Ils mettent un bébé dans le Lando, un vrai, pour les plans un peu de près. Je me dis, ils vont faire comme dans les films d'aujourd'hui. Ils remplacent par une poupée quand le bébé, faut le jeter contre le mur, tu vois. Le bébé, il dévale les escaliers pour de vrai.
Ils en ont pris 5 différents.
Et ils ont pas tous très bien terminé.
Mais c'est une scène, oui, qui est entrée dans l'histoire du cinéma. Mais d'ailleurs,
t'en a un qui s'appelle Stephen Hawking, je crois d'ailleurs.
J'ai été une star de cinéma pendant un temps.
Non, mais une scène qui du coup hyper.
Mais oui, non, mais c'est une scène qui est devenue culte. On compte pas le nombre de clins d'œil, de références dans toute l'histoire du cinéma. Ensuite, le plus évident, c'est dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, quand ils sont dans la gare avec Elliot Ness. Tu sais, à un moment, il y a une fusillade ralentie et à un moment, on voit le Lando à nouveau.
Attends,
qui...
c'est un film qui fait la promotion du capitalisme, ça
Pas vraiment, puisque le capitalisme sauvage qui est défendu par Mr. Al Capone et savamment puni
sans
par l'État.
Loi.
Je crois qu'il y a une contradiction. Je l'ai vu, mais on m'a désappris à l'avoir vu.
Raph,
t'as
pourquoi du sang, t'as du sang dans l'œil gauche.
Les Incorruptibles. Ah non, je l'ai pas vu du coup. Excuse-moi.
Mais non, mais c'est une scène absolument magistrale. Après, moi, je trouve que ça participe vraiment de tout le film. Et j'invite à nouveau nos auditeurs à aller le regarder sur YouTube également. C'est un film, malgré son statut de film en noir et blanc muet soviétique, qui est un vrai film d'action quasiment, parce qu'il y a un montage de taré. Eisenstein est reconnu pour un apport au cinéma mondial. Enfin, c'était le montage absolument le plus pur et le plus dingue.
Il n'y a pas eu de montage, c'est que des images sur le fait.
Bah, ce sont les vraies images. Il était là.
Ce sont les vraies images,
oui. Oui, non, mais le montage, ça ne veut pas dire très trafiquer les images. Le montage, c'est-à-dire couper, ça veut dire il y a pas
il y a pas de couple là, enfin c'est la réalité. S'il a filmé en 1905, s'il s'est passé.
Oui, mais on peut pas passer à gauche de l'escalier.
Ah,
puis
si,
à
on
droite.
Peut passer à gauche. Je te prierai d'ailleurs d'ici la fin de cet épisode que tu sois un peu plus Gaspard.
Je suis un peu trop à droite de mon micro, pardon.
Voilà, mais t'es un peu trop à droite.
Mais non, mais c'est un vrai cinéma d'action.
Ce podcast va redevenir plus politique, Gaspard.
Écoute, si tu veux.
Et le 5 mai, c'est la fête à Macron. Hein. Attention. Ouais.
Alors, et du coup,
je suis ravi que tu aies une certaine idée du calendrier puisque nous sommes actuellement. Je ne donnerai pas la date d'enregistrement. Mais nous sommes au mois de juin pour les gens qui écoutent.
J'espère que vous l'avez pas manqué, la fête à Macron.
Si je peux me permettre, étant donné que du coup tu vas colorer l'émission avec une couleur un peu rouge, socialiste, communiste,
oui,
est-ce qu'on pourrait pas le rappeler un podcast ? Parce que le communisme n'aime pas les castes. Du coup, podcast.
Interdit aux Indiens.
Si vous voulez que Cyril revienne dans les prochains épisodes, ne laissez pas de commentaires, et si vous voulez qu'il reste, ne mettez pas de pouce bleu. On s'en sortira.
On se débrouillera. De toute façon, si vous mettez un pouce, qu'il soit rouge, parce que c'est la seule couleur que je vois maintenant. Non, je suis daltonien. Ils m'ont forcé à devenir daltonien. Ils m'ont pas forcé, j'ai accepté de mon plein gré. Pardon, excuse-moi.
Mais du coup, t'avais un peu accès aux réseaux sociaux, à Internet. Tu peux t'arriver à t'informer.
Ah oui, tout à fait.
Tu sais que Johnny est mort.
Quoi ?
Ah bah on t'a pas dit.
Non.
Oh, putain, on lui avait pas dit.
T'es assis. Bon.
Johnny qui ?
Johnny Hallydaynovich.
Ah, mais lui, ce pantin du capitalisme qui avait comme symbole un aigle, tel l'aigle impérialiste des États-Unis.
J'ai tellement peur sur le mot que t'allais dire. Moi aussi. Et surtout, ses enfants se sont battus pour un symbole du capital absolument immonde.
Pour lui. Sur quoi ? L'héritage !
Et nous, la présence de Cyril ce soir.
Eh oui, en exclusivité, je vous annonce que je suis en charge de réaliser cette opération.
Mais excuse-moi, j'aimerais quand même relancer peut-être là pour lancer la merde. Mais bon, toi, en tant que symbole profiteur du capitalisme, et toi, fervent pourvoyeur du monstre
de liberté sociale.
Oui, vous devriez pas vous foutre sur la gueule un petit peu.
Non, mais je suis ravi que tu le soulignes, Gaspard. Je sens que mes idées se propagent à vitesse grand V. J'espère que vous, auditeurs, également avez remarqué que le métier de notaire est un métier qui prend appui sur la construction sociale qui est l'héritage et la famille, alors qu'en vérité, le capitalisme...
Seul le travail est une valeur.
Alors, le travail est une valeur, mais c'est le travail lorsque les outils de production ont été réappropriés par...
La communauté.
Par la communauté, par l'ouvrier.
Du coup, on garde le travail, la patrie, mais pas la famille.
Par les ouvriers, par le peuple.
Par le peuple. Tout à fait. Exactement.
D'accord,
bravo Gaspard.
Communisme, parce que bon.
Je sens que Gaspard est. Alors maintenant, il reste plus qu'à convaincre toi. Je sais que ton emploi te demande un petit peu parfois de faire appel au capitalisme, à des réflexes. Mais est-ce que tu ne voudrais pas épouser une cause plus noble, une cause où tu pourrais faire en fait tout simplement des actes notariés tous les jours, puisque ton héritage que tu transmettrais serait celui de peuple tout entier.
Écoutez, je peux commencer dès maintenant en vous transmettant officiellement et en faisant l'héritage de nos parents et des sociétés passées. Vous êtes tous les deux officiellement des citoyens du monde. Voilà, je voulais vous le dire.
C'est noble, camarade Cyrilovitch.
Mais à part ça, tu sais que les notaires, d'une certaine manière, représentent l'essence même du capitalisme.
Ah ben c'est bien le problème.
Parce que le notariat est une profession qui bénéficie au titre de son exécution du service public.
Ouais. C'est bien que tu parles d'exécution, si tu es conscient de ce qui peut arriver si tu continues à exercer cette profession. Je pense que nous pouvons peut-être terminer sur ce film pour en venir un petit peu à ce que vous en avez pensé.
Bah, moi, pour être tout à fait honnête, au début, bah, c'est toujours difficile de se lancer dans un film qui est en noir et blanc, muet, sur un pays et des coutumes qu'on connaît pas forcément, parce que je suis loin de la Russie des années 1905. Mais j'ai bien aimé, et puis c'est un grand classique, les escaliers d'Odessa, c'est voilà. Il faut les faire dans une vie, et bah, maintenant, je considère que je les ai faits, ma vie est réussie.
Spoiler alert, tu les as fait aussi en tant que bébé, puisque un des bébés des Landau, c'était toi, donc j'espère que ça t'a pas rappelé trop de souvenirs. Si je te secoue comme ça, ça te...
L'autre bébé, c'était JG.
Si tu nous entends...
Et d'ailleurs, chaque année, il retourne avec sa chaise roulante répéter la scène.
Une sorte de pèlerinage. Hein.
Ouais, dans l'espoir peut-être de se recasser un truc qui le remettrait en place. Et toi, Gaspard, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Écoute, bah, moi, je trouve que c'est un film assez merveilleux. Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, je vous invite à tous aller le voir parce que...
Mais tu dis qu'il faut aller le voir, mais il faut aller le voir au cinéma. Enfin, c'est payant, c'est...
Non, bah, là, tu vas calmer tes réflexes capitalistes. Et comme je te disais tout à l'heure en début d'épisode, c'est un film qui est tombé dans le domaine public, qui est légalement sur YouTube et sur tous les sites internet. Vous pouvez le voir légalement, très bonne qualité. Je vous invite à aller le voir parce que c'est un film qui prône de belles idées.
Bravo, camarade Gaspard.
Oh, j'ai plus l'habitude de dire cette phrase, mais et toi, Raphaël, t'en as pensé quoi ?
Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que je pense de l'héritage de près de 100 ans de révolution perpétuelle ? Qu'est-ce que je pense de l'héritage du plus grand mouvement social de tous les temps ? Que de l'amour, que du bien. Je suis heureux d'avoir pu partager ça avec vous, d'avoir défoncé cette porte, d'avoir défoncé cette muraille entre nous qui existait depuis maintenant pratiquement 2 mois. On s'est pas vu et je trouvais que c'était non seulement un film très beau, mais un film très érotique. Je sais pas trop ce qui nous arrive là.
Tu m'as manqué, putain. Viens ici, putain.
Ah oui.
Alors, écoutez, on est très heureux, en tout cas, moi, pour ma part, de vous avoir parlé de ce film. C'était vraiment regarder le cuirassé Potemkin. Juste une tradition, hein, au niveau des recommandations. Affreux, sale et méchant, un grand film que Raphaël vous recommande sûrement à nouveau. Et moi, pour ma part, je vous recommande un autre film qui est un peu dans le style, alors un peu plus corrosif, hein, mais Raphaël ne peut pas en débattre. C'est La mort de Staline qui était au cinéma il y a quelques semaines et qui est un film assez intéressant. Mais peut-être que Gaspard et Raphaël pourront nous en parler à un autre moment. Mais et bien évidemment, pour finir, les remerciements. Merci à la prod. Merci à C64. Merci à la tante de Gaspard, la tata de Gaspard. On se retrouve pour le prochain épisode. On parlera dessin, on parlera histoire dessinée, on parlera manga. Après la Russie, on passe au Japon. On reste sur un continent que l'on connaît trop peu. Le prochain film sera un film le 13 juillet et ce sera La Menace Fantôme. Voilà, Star Wars, un autre univers, la guerre des étoiles, le choc entre deux mondes, comme entre le monde capitaliste et le monde communiste. À bientôt.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin, au grand vent se furine. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde, que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkin. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. ravir. Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkin.